Aujourd'hui, on va regarder un texte particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer dans 1 Pierre, même si on vous le rappelle, 1 Pierre, c'est dans le contexte de la persécution, et Pierre écrit cette lettre à des chrétiens qui ont commencé à vivre la persécution avec l'empereur Néron, qui était aussi affreusement torturé, mis à mort. Et il voulait leur rappeler qu'il fallait regarder au-delà de l'immédiat et qu'ils avaient une espérance vivante. On a aussi tous une espérance vivante, mais sans doute devant ces nouvelles, si vous êtes honnête, vous avez peut-être eu retenir les larmes. Peut-être que vous avez pleuré, c'est bien de pleurer, d'être dans le deuil. Mais il y a un passage dans la Bible, c'est en fait le verset le plus court, et c'est peut-être aussi le verset le plus réconfortant. Celui qui peut nous parler dans ces moments de deuil, de peur, d'inquiétude, de colère, de préoccupation, de tout ce mélange de sentiments qui fatigue. Ça fatigue les émotions, vous avez remarqué? Surtout si on attend les dernières informations et qu'on se couche tard et qu'on se lève tôt. C'est le verset où il est dit que Jésus pleura. Donc je vous invite à vous tourner avec moi dans Jean 11. Dieu pleure. Jésus pleure. Et vous avez vu tous les dessins qui circulent sur les réseaux sociaux, la France qui verse des larmes. Vous avez vu aussi les hommages dans différents pays pour souffrir ou pour pleurer avec nous. Ça, c'est loin d'ici, 900 kilomètres, on sait qu'une heure d'avion. Et en même temps, ça, je suis sûr que vous avez tous des gens que vous connaissez à Paris. Notre fils Sébastien habite dans le quartier où sont passés ces événements. J'ai regardé en ligne, c'est 1 kilomètre du Bataclan, c'est là qu'il habite. Il aime bien ce quartier, il sort prendre des pots avec ses copains et ses copines. Et heureusement, ce soir-là, je savais qu'il était à Nantes pour son travail. Il s'est couché tôt, il n'était pas au courant de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il soit réveillé par des tas d'appels. Son téléphone s'illuminait et ça l'a réveillé parce que on voulait des amis prenaient de ses nouvelles. Dieu merci, il n'a pas été impliqué dans cette terrible tuerie, ces terribles attentats. Mais on a tous ce sentiment de dire il n'y a plus d'endroit où on se sente vraiment protégé. Et on le sait intellectuellement, mais là, de penser qu'on peut être en train de manger dans un restaurant et que quelqu'un vient vous descendre. Vous êtes en voiture, vous êtes arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, et on vous éclate la cervelle avec une Kalachnikov. On ne sait pas comment réagir. J'étais perplexe pour savoir quel texte choisir pour parler, pour amener du réconfort, des explications, si tant est qu'il y en ait. Et de l'espoir dont nous avons tous besoin, une espérance vivante. Et en fait, j'ai trouvé un message qui avait été prononcé par un pasteur juste après le 11 septembre. Le 11 septembre, c'était entre 2000 et 3000 morts. Les gens avaient de quoi avoir peur, de quoi poser des questions à Dieu, de quoi être en colère. Et ce pasteur a choisi de prendre ce passage de la résurrection de Lazare pour parler et pour adresser ses inquiétudes, ses questions, ses peurs. On va lire ensemble. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et toi tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu me demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici, il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où elle était, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc : Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus se leva les yeux en haut et dit : Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-le aller. On ne va pas faire un commentaire verset par verset, mais juste souligner quelques points. On va parler des larmes, de la colère, de la vérité et de la grâce. Il y a ces larmes de Jésus. Qu'est-ce qu'elle nous montre ? Qu'est-ce qu'elle nous apprenne ? La sœur de Lazare, Marie, lui dit : Pourquoi ? Lui fait le reproche : Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est une question qu'elle lui pose : Pourquoi tu es pas venu ? Pourquoi tu l'as laissé mourir ? Jésus est tellement bouleversé qu'il ne répond pas à sa question autrement qu'en pleurant. Il est ému, il est troublé. Et cette réaction, elle a de quoi nous surprendre. Parce que, en fait, on sait que Jésus, nous entrons dans, nous voyons la situation se dérouler, on voit cet homme qui était tellement aimé par ses sœurs et qui est mort. Jésus, il sait déjà pourquoi cet événement se passe. Verset 4, il a dit : Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Il a un but, révéler la gloire de Dieu. Il sait à l'avance ce qu'il va faire. Il sait à l'avance que ça va être une joie inouïe. De voir ce frère ressuscité, revenir à la vie. Ne peut pas ne pas penser à ces personnes qui sont appelées à l'Institut médico-légal pour essayer de reconnaître un proche parent, un ami, un époux, une épouse. Qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour que la personne soit ressuscitée, la personne revienne à la vie. Jésus le sait, mais il pleure quand même. Deuxième chose qui peut nous surprendre encore une fois, c'est que non seulement Jésus sait pourquoi ça se passe, mais Jésus à la toute puissance. Il va le montrer. Pourquoi est-ce qu'il pleure? On se dit, si on avait la toute puissance de faire relever ces morts la nuit de vendredi, on le ferait, on ne passerait pas du temps à pleurer. Nous, on est à la recherche de solutions. Cet auteur parle du... On veut exercer le ministère des solutions. Et des solutions, on en a plein. On a deux mots à dire aux hommes politiques, à la police, à tel ou tel parti, à tel ou tel homme politique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer le fait d'avoir entre 15 et 25 ans, faire un voyage en Syrie ou en Turquie, ça devrait, et qu'on sait que vous êtes fréquenté une mosquée radicale, est-ce que ça ne serait pas une raison pour être enfermé pendant 20 ans? On a des solutions. On imagine, on voudrait trouver des solutions. Jésus, lui, il a le ministère de la compassion. Il exerce le ministère de la compassion. Il nous invite à avoir ce ministère de la compassion. Avant toute chose. Ces gens qui pleurent, il nous dit « pleurez avec eux ». Pleurons avec ceux qui pleurent. Ça, ce sont ces larmes qui montrent aussi qu'il était parfaitement homme. Il pouvait exprimer son émotion. Et je vous invite à souligner ce verset dans vos Bibles. Jésus 11, 35. Si vous n'avez jamais appris un verset par cœur, vous avez des problèmes de mémorisation, c'est le verset par lequel commencer. Jésus pleura. Il compatit. Il sait de quoi nous sommes faits. Il est né, il a souffert. Il a été un bébé qu'il fallait changer. Un bébé qui pleurait quand il avait faim. Puis on sait comment il a été rejeté par les hommes, comment il a finalement souffert le supplice de la mise à mort, flagellation, la mort, les hésitations. Mon père, s'il y a une autre façon, tu peux m'en parler vite? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de régler le problème? Jésus était parfaitement homme. Il sait ce par quoi nous passons. Jésus a pleuré. Quand il est dit, un deuxième point, c'est non seulement il y a ses larmes, mais il y a la colère. Et c'est un sentiment qui vous a sans doute habité, peut-être encore maintenant. C'est pas très bien traduit, ou la traduction ne montre pas qu'en fait c'était vraiment de la colère. Lorsqu'il est dit, verset 33, quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. En fait, c'est un mot qui veut dire, lorsqu'il est dit qu'il a 33, c'est donc qu'il fut troublé, qu'il a frémi, c'est comme un lion ou un taureau qui rugit, dont les narines frémissent. C'est de la colère. Il est en colère. Il est pas. Vous avez tous entendu parler du livre de Job, on l'étudiera dans un futur proche. Il n'est pas comme ses amis de Job qui lui disent, qui lui affirment qu'en fait, s'il a des problèmes, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Jésus n'est pas en colère contre Lazare. Il ne dit pas s'il avait été plus fervent dans sa dévotion à Dieu, s'il avait donné davantage de sa vie, de sa personne, on l'aurait épargné, il ne serait pas mort. C'est une tendance que l'on a de penser qu'en fait, ce qui arrive à ces Français, ce qui arrive en France, c'est un jugement de Dieu contre la France. Quand j'ai entendu parler du nom de l'orchestre, du groupe qui jouait au Bataclan, j'ai dit, ben, ils ont une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'ils ont ce qu'ils méritent. Pourquoi? Parce que le groupe s'appelle les anges de la mort. J'ai dit, ils vénèrent la mort, ils en trouvent que c'est un bon nom, mais bien sûr, c'est pas. J'ai même regardé un peu certains des paroles de ce groupe. Et il y a même des influences chrétiennes. Il y a une chanson qui s'appelle Le Révérend. Marie-Christine n'est pas là, sinon elle aurait aimé ça. Une autre qui dit parler en langue. Alors ce n'est pas un message chrétien, mais on voit une influence et on a le droit de choisir quel nom. N'importe quel nom, ce n'est pas une raison pour être jugé, tué. Il n'est pas en colère contre lui-même, Jésus. Il ne se dit pas, c'est vrai, si je m'étais un peu dépêché, j'aurais pu sauver ce pauvre Lazare. C'est de ma faute, j'ai. Non, il n'est pas en colère contre lui-même. C'est aussi quelque chose qu'on peut éprouver, c'est de se dire qu'en fait, on peut être en colère contre nous-mêmes pour la façon dont on a traité le problème de l'immigration. La façon dont on a maltraité les immigrants. Je me souviens lorsque j'étais jeune, les Algériens qui vivaient en France étaient accusés de tous les viols qui pouvaient se produire. Il y avait un racisme farouche. Les hommes vivaient dans des cabanes Algéco. Leur famille était au pays. Et certains diront, on est en train de payer la colonialisation, on est en train de payer notre racisme. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. On peut avoir ses convictions, on peut se repentir, on peut se poser des questions. L'injustice sociale, les ghettos. Le fait que si votre prénom c'est Mohamed, vous avez plus de mal à trouver du travail que si votre nom c'est Pierre. Mais Jésus, même s'il est en colère, il n'est pas en colère contre lui-même, contre. Là j'ai un peu extrapolé, mais un autre danger qui nous guette, c'est aussi de comparer l'ennemi, le considérer comme Satan. Et de dire que nous sommes les bons et eux, c'est les mauvais qui ne méritent même pas d'exister. On a tendance à dire oui, jamais ça ne viendra à l'esprit d'aller abattre des gens innocents pris au hasard. Je crois que c'est Tonio qui disait qu'en fait, sans Dieu, on est capable du pire. Et on ne peut pas présumer de ce qu'on ferait si on était endoctriné, si on était plein de rage, une rage entretenue, une colère entretenue. La colère de Jésus, s'il n'est pas en colère contre la mauvaise vie de Lazare, s'il n'est pas en colère contre lui-même, contre quoi Jésus est-il en colère? Il est en colère contre la mort. Il est en colère contre la condition humaine. Il est en colère contre le péché qui nous infecte depuis nos ancêtres Adam et Ève. Le fait que ce monde qui devait être un endroit de félicité en communion avec Dieu, comme il l'était au début, il a été affecté par le péché. Satan, cet ange déchu, contrôle le monde. Et le monde contrôle nos vies par notre chair, par nos désirs. Jésus n'est pas insensible à la condition humaine. Le péché, on le tolère dans nos vies, on l'excuse dans nos vies surtout, on l'excuse beaucoup moins dans la vie des autres. Mais c'est une chose horrible que nous pouvons détester. Nous pouvons être en colère contre Satan, contre le péché, contre nous-mêmes. Lorsque nous succombons au péché, nous avons la liberté, si nous sommes chrétiens, de dire non au péché. Si nous succombons au péché, c'est parce que nous le voulons bien. Jésus, encore une fois, ne nous dit pas de comparer tous ceux qui viennent du Moyen-Orient à des démons, comparer tous les musulmans à des démons, d'aller faire sauter les mosquées, d'aller faire des représailles. Il est en colère contre la mort, il est en colère contre la tombe. Et Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il va transformer la mort en résurrection. Et de cette chose horrible, la mort de Lazare, pour nous la mort de ces probablement 200-250 personnes, à plus ou moins brève échéance, je vais la transformer en quelque chose de bon, de beau, de résurrection. Ma prière, c'est que nous prions pour le réveil. Pour que devant l'émotion qui a saisi le pays, on soit des ambassadeurs d'espoir et de lumière avec l'Évangile. Même auprès des musulmans, même auprès de ceux qui nous veulent du mal, aimons nos ennemis, c'est difficile à envisager en ce moment. Mais Jésus, il a cette puissance de résurrection. Le mal que Satan veut, Jésus peut le tourner en bien pour Dieu. Retourner les tables. Et ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection, c'est plus puissant que la puissance nucléaire, la plus puissante des bombes atomiques, c'est rien à côté du pouvoir de la résurrection. De la croix est venue la résurrection. De la faiblesse vient la force réelle. Quand je suis faible, alors je suis fort, parce que c'est lui qui agit. De la repentance, qui dit j'ai mal agi, je suis un pécheur, je demande pardon, vient la vraie puissance. De la mort peut venir la résurrection. Donner aux autres, servir les autres, c'est la vraie force. La vraie richesse, c'est la générosité, c'est donner notre argent. Ça, c'est l'histoire de l'Évangile. Il est troublé, mais il annonce la vérité. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Il y a une démarche de foi. Et même pour certains d'entre nous, je suis sûr que ce n'est pas facile de regarder à Jésus et de l'entendre nous dire « Aime tes ennemis, pardonne-leur, annonce la résurrection. Je vais faire de ces cendres, de ce carnage, de ce saccage, de ce ravage, je vais faire quelque chose de beau. Je suis attristé lorsque j'entends que c'est une bonne chose, je ne le reproche pas, qu'il y a que l'État laïque envoie des bataillons de psychiatres, de psychologues, et ils ont leur place, et c'est mieux que rien. Je suis attristé par le fait qu'on n'entend pas parler de pasteurs en maraude, essayant d'amener de l'espoir aux gens qui viennent de perdre un être cher ou qui sont blessés dans leur chair. Je suis attristé parce que ça veut dire que notre influence dans le pays est si faible, si petite. Je suis allé sur le site du CNEF pour voir s'il y avait une déclaration. Il n'y avait rien. Il y a 2 jours, enfin hier plutôt. Je suis allé sur le site de la Fédération protestante de France. Il y avait un petit mot invitant les gens à faire confiance à Dieu. Ce matin, il y avait un message qui est venu du CNEF, de la même façon, invitant à ne pas faire d'amalgame. d'aimer nos prochains, de réconforter, d'être des solutions plutôt que des sources de problèmes. Mais ça, j'ai reçu un message d'une amie aux États-Unis qui nous a demandé si notre Église allait envoyer des équipes pour refaire un ministère de réconfort à Paris. Et j'ai dit, si seulement on pouvait s'organiser, si seulement on pouvait faire cela, prions pour qu'on soit en mesure un jour de le faire, on pourrait partir et aller parler dans les rues. Mais tous, nous avons notre rôle à jouer. Nous ne sommes pas là à parler de Kalachnikov, à parler d'islam radical. Nous sommes là où nous voulons parler de Jésus, inviter les gens à se tourner vers Jésus. Jésus n'a pas essayé de blâmer les médecins d'époque. Il a pleuré. Il a pleuré contre la mort. Et il annonce sa vérité, « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Aujourd'hui, malgré ces événements, c'est plus facile si on n'est pas directement touché. J'étais surpris de voir que parmi les joueurs de... C'est un peu triste de voir que pour une fois qu'on bat les Allemands 2-0, on n'a même pas la joie d'en parler. Mais parmi les joueurs de l'équipe de France, il y avait, je crois, c'était Griezmann, sa sœur était au Bataclan. Donc on imagine son angoisse on leur a dit après le match, ils ont regardé les émissions, elle s'en est sortie, indemne. Par contre, je crois qu'il y a un autre joueur dont la sœur est morte, ou la cousine est morte. Jésus pleure. Et on peut penser, bien sûr, que Dieu est le Dieu de tous les réconforts. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 1 qu'il peut nous consoler, nous réconforter dans toutes les situations. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que Jésus, il n'essaye pas d'apporter la consolation, il apporte bien mieux, il apporte la résurrection. Et je crois que Dieu va utiliser ces événements pour bouleverser les gens, pour les faire réfléchir à la mort et à la vie. Quand votre grand-mère qui a 75 ans souffre du cancer et qu'elle finit par décéder 3 ans plus tard, on dit c'est triste. Mais lorsque votre copain qui a 18 ans, qui était allé voir le concert, se retrouve à la morgue, ça choque, ça interroge. Qu'est-ce que la vie ? Est-ce qu'il y a un sens à la vie ? Si on peut partir comme ça, je suis désolé, mais il n'y a pas de sens. Avoir un peu de joie, de plaisir, le vendredi soir, sortir un peu, prendre un pot, écouter un concert de rock. Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que vous le croyez vraiment ? Si c'est le cas, alors vous pouvez présenter la résurrection, vous pouvez parler de Jésus, partager que devant ça, Jésus commence par pleurer. Parce que la mort est une chose horrible. Il ne dit pas aux hommes de se venger. Il ne nous dit pas Il est dit aussi à la fin que, dans le même passage, dans le chapitre 11, qu'après cela, les Juifs ont décidé de prendre sa vie. Il a offert des larmes, la colère, il a été en colère, il a annoncé sa vérité. Mais surtout, il va faire preuve de grâce. Il est prêt à mourir pour nous dans ce récit. Après avoir ressuscité les morts, le mort, il donne la vie, sachant que ça va lui coûter la sienne. Le sang édrin, les dirigeants religieux, verset 47, les principaux sacrificateurs, les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent le sang édrin, leur conseil, et dirent: qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il faut que ça cesse. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. Caïphe qui dit: il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure, afin que la nation entière ne périsse pas. Et verset 53, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus donne sa vie pour sauver la nôtre. Jésus donne sa vie pour nous la donner. C'est l'évangile, c'est le message que nous pouvons, que nous devons partager avec ceux qui nous entourent. Encore une fois, nous ne voulons pas être utilisés par Satan qui voudrait que nous propagions de la haine, un esprit de vengeance. Nous avons plein d'assurances que Jésus est là pour nous protéger. Si jamais il nous laisse partir dans des circonstances tragiques, c'est que nous ne réveillons sa présence. Ce n'est pas un réconfort pour les personnes non croyantes, mais vous qui avez cette espérance vivante en vous, nous qui avons cette espérance, ça met les choses en perspective. Ça n'enlève rien, encore une fois, à l'atrocité de ces actes. Mais la solution pour la France, ce n'est pas un policier derrière chaque personne, c'est Jésus-Christ. Dans nos cœurs, prions. Seigneur, comme toi, nous pleurons. Seigneur, tu nous dis de ne pas avoir peur. Nous sommes dans la stupeur, dans la peur, dans la colère, dans l'esprit de vengeance. Mais toi, Seigneur, tu nous montres comment réagir. Ta résurrection est plus forte que la mort, Seigneur. Que ces événements nous donnent un zèle renouvelé pour partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Te remettons ces familles, ces amis qui pleurent des êtres chers disparus de façon si aléatoire, si absurde, Seigneur. Nous prions pour que certes, des psychologues puissent les aider à reprendre pied, mais Seigneur, encore plus à ce qu'il y ait des chrétiens qui leur parlent de toi, Seigneur, sois glorifié même dans cette tragédie. Et nous voulons prier pour toutes les églises de France et de Navarre, comme on dit, Seigneur, qui se réunissent aujourd'hui, que ce soit ton message d'amour qui soit enseigné, qui soit rappelé, qui soit source de réconfort et d'espoir, Seigneur. Merci pour l'espérance. Merci pour l'espérance vivante, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.